Amour.
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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, ça va super bien. On revient donc cette semaine pour la seconde partie de l'épisode avec Maureen, thérapeute de couple, formatrice, créatrice de contenu et plein d'autres termes. On est tous et toutes des milliers de choses. Voilà. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous laisse aller l'écouter. C'est la première partie et cette semaine, donc, nous sommes dans la deuxième partie. En vous souhaitant une belle écoute. On va revenir juste sur une dernière chose, parce que, sur les journées que vous faites avec Paul.
Oui.
Qu'est-ce que sont ces journées ?
Alors, les journées immersion et d'expérience, c'est des journées qui ont été créées pour faire l'expérience des enseignements sacrés, comme j'aime les appeler, de la relation consciente. Donc, c'est vraiment des journées qui sont construites avec le cœur, avec amour, dans lesquelles on a envie d'accueillir. Alors, il y a toujours des thématiques, hein, plus ou moins, mais l'idée de ces journées, c'est qu'elles soient vraiment ouvertes aux hommes, aux femmes, aux couples, aux personnes célibataires, aux parents et leurs enfants, aux amis, voilà, et que ce soit vraiment la relation qui soit mise à l'honneur, pas forcément la relation de couple ou de parentalité, ou tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment la relation avec tout le monde et sa place, et on incorpore différentes pratiques, voilà, dans lesquelles on va, par exemple, faire de la respiration consciente, du breathwork, qu'on va faire du Hatha Yoga, donc c'est une technique qu'on a créée avec Polo, où on entremêle nos médecines, on va faire des ateliers, des pratiques psychocorporelles, des visualisations créatrices, des cercles évidemment de partage, voilà, des chants, voilà, plein de choses qu'on va construire et qu'on co-construit avec les personnes qui sont présentes. Et l'idée, c'est vraiment de vivre une expérience relationnelle transformatrice qui nous fait reconnecter en fait à la puissance de la relation, qui est pour moi la plus belle source de réparation qui soit, voilà, à l'intérieur de soi, et la plus belle manière aussi de contribuer au monde et d'agir pour un monde humainement éveillé, voilà, pour l'humanité. Voilà, un petit peu ces journées. Donc on est toujours Paul et moi et la team EDA qui est présente aussi. Voilà, au maximum, et c'est des journées qui vont se faire sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Paris. Bon, là, la prochaine, c'est le 26 novembre sur Bordeaux, mais on en a prévu une aussi sur Paris, voilà, début d'année prochaine. Donc voilà, les journées immersion et d'expérience, c'est ça.
Ok, super. Bah, ça a l'air. Enfin, moi, j'avais vu justement des posts, mais t'en avais parlé justement sur Telegram à l'époque, et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, en fait, c'est surtout le co-créer ensemble.
Ouais.
J'ai trouvé ça sympa aussi.
C'est très challengeant, hein, Isabelle. Hein. De co-créer avec ton mec. Une journée. Oh là là. Surtout qu'on est, quand même très différents. Et c'est ça qui est génial, c'est que Paul, c'est vraiment, lui, il est dans le subtil, en fait. Hein. Paul, il est vraiment dans le subtil, dans l'invisible, dans les runes, dans le chamanisme celto-viking. Il apporte, tu vois, pour moi, cette présence, cette contenance, tu vois, cette écoute d'homme que je trouve exceptionnelle. Et en même temps, il agit énormément sur ce plan subtil. Et moi, on va dire que je suis beaucoup plus ancrée, beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus dans ta-ta-ta-ta-ta, tu vois. Donc, il faut arriver à mélanger, tu vois, ces deux polarités-là. Et des fois, c'est très challengeant, puisque c'est vrai que j'ai mon côté quand même un peu contrôlant. Mais heureusement, j'ai un homme qui sait s'y prendre maintenant. Et bon, je fais quand même beaucoup d'efforts, je travaille beaucoup sur moi. Donc, on arrive à créer des choses, je l'espère, vraiment sympas.
Ouais, bah du coup ça m'amène à revenir sur les deux expressions d'amour que je voulais dont je voulais parler avec toi. On parle de les opposés s'attirent et les qui se ressemblent s'assemblent. Qu'est-ce que t'en penses de ces expressions? Tu penses vraiment qu'elles sont vraies ou quoi?
Alors très important pour moi de démarrer avec la notion de nouveau que pour moi il n'y a pas de vérité en soi. Ouais. Mais en fait dans l'amour il n'y a pas de règles. Donc moi toutes ces espèces de dictons. Ça me fait toujours rire parce que je me dis, bah voilà, on essaye de faire d'une possibilité une réalité pour tout le monde. Donc déjà, ouais. C'est la première chose que j'aurais envie de témoigner par rapport à ça. Ensuite, moi, de ce que j'ai pu observer dans mon couple et dans les couples que j'accompagne et dans ce que je prône aussi, c'est que ça me paraît profondément fondamental d'être aligné sur les mêmes valeurs. Donc, qui se ressemble, ça semble plus dans le but... qui veut aller dans la même direction, qui partage les mêmes valeurs et qui veut contribuer au monde de la même façon, ça semble. Voilà. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Et là où je valide les contraires s'attirent, c'est-à-dire que si on est tout pareil, eh ben, en fait, on peut pas s'aider à grandir et à évoluer. Et donc, à un moment donné, pour moi, c'est la mission du couple allié, et de la relation consciente, c'est-à-dire qu'on va se diriger vers un partenaire qui est profondément chaud là où nous, on est froid et qui est profondément froid là où nous, on est chaud. C'est-à-dire que cette complémentarité va nous offrir l'opportunité d'ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais ouvertes si on n'avait pas rencontré cette personne-là. Parce que cet allié va nous demander de donner ce qui nous est le plus dur à donner. Et il n'y a que de cette manière-là qu'on va pouvoir reconnecter à des parties de nous qu'on a cachées, qu'on a reniées, qu'on a refoulées par commodité sociale, familiale, pour se donner l'opportunité de plus s'ouvrir, plus aller chercher cette complétude absolue, cette unité. Et c'est en ça que je défends cette idée que c'est une médecine à part entière. Et que, ben, tu vois, ces deux règles, si on les met de côté, si on les sépare, elles sont fausses. Si on les mixe, elles sont fausses ou alors elles sont vraies. Enfin, en fait, ça veut rien dire, faux vrai. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Tout est vrai et tout est faux à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend toujours de comment tu décides de lire le truc.
Oui, c'est ça. On n'a pas le savoir. On n'est pas. Enfin, on a besoin de connaissances, d'apprendre. Je trouve dans tout ce que tu dis, on sent que voilà, tu remets souvent en question tout ce que tu dis, tout ce que tu vis, tout ce que tu véhicules. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire que bah des fois, enfin, on n'a pas la science infuse. Chaque thérapeute a sa vision. Il t'apporte aussi certaines choses, mais c'est à toi de faire ton propre chemin, ta propre vérité. Donc ouais, c'est ça. Merci pour ça. Et on va passer aux questions qu'on nous a posées. J'avais demandé à nos abonnés de poser des questions. Alors, on en a eu pas mal. Et du coup, tu en as choisi 4. Alors, la première question, c'est comment sait-on si on doit continuer ou tout arrêter? J'imagine que c'est dans une relation de couple.
Ouais, j'ai choisi cette question parce que j'ai trouvé que c'était une question qui revenait en fait très régulièrement, même moi, sur les commentaires, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment assez fréquent, étant donné que j'essaye d'apporter beaucoup de nuances. Je suis pas quelqu'un qui va... Enfin, ça peut m'arriver, évidemment, d'être assez... d'avoir des idées assez tranchées sur certains trucs. Mais j'ai tendance quand même à essayer de remettre en question beaucoup de choses. Et du coup, je pense que pour certaines personnes, des fois, c'est challengeant. Et pour moi aussi, d'ailleurs, de se dire, mais où sont... À quel moment, en fait, on sait qu'il faut continuer une relation ou qu'il faut arrêter? Et en fait, j'ai choisi cette question parce que j'ai envie de rappeler de nouveau que je n'ai pas la réponse. Et c'est très important pour moi de dire que je n'ai pas la réponse et que, à mon sens, dans ma réalité du monde, personne ne devrait l'avoir hormis celui qui pose la question. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une invitation à reconnecter à sa responsabilité, à son pouvoir personnel. Pour moi, aucune personne extérieure à vous-même n'est censée vous dire à quel moment il faut continuer, à quel moment il faut s'arrêter. Puisque ça dépend vraiment des limites de ce que vous allez poser en fait dans votre vie relationnelle. C'est-à-dire que moi, une situation de couple, il pourrait se passer certaines choses où je dirais, bah moi c'est catégorique, c'est terminé, j'arrête. Et il y a quelqu'un d'autre pour qui ce serait, ben moi je continue. Mais qui je suis pour dire que c'est pas juste qu'elle continue? Et qui elle est pour me dire que c'est pas juste que j'arrête? Vous voyez, donc c'est vraiment cette notion-là. Enfin là, je m'adresse vraiment à tes auditeurs, à ceux qui vont nous écouter. Voilà, vraiment une invitation à se déculpabiliser, parce que je crois que c'est ça, en fait, pour moi, quand on descend les escaliers, quand je lis ces messages ou ces commentaires, je sens une pression de culpabilité de ces gens qui ont la sensation que leur entourage, leur famille, leur ami leur dit « mais t'es complètement taré, mais tu devrais pas, mais arrête, mais tu te fais du mal, mais tu t'autoflagelles, patati patata ». Et ces gens-là se disent « mais attends, mais c'est pas normal, mais c'est pas normal ». Et en fait, pour moi, soit… ben, ils ont peut-être dépassé certaines limites, mais ils n'ont pas dépassé. Apparemment, ils n'ont pas franchi les limites du stop. Et on en a tous, hein, au bout d'un moment. Et je vais te dire, l'humain est un peu con-con sur les bords, et je m'inclus complètement dedans, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin d'en chier notre race, clairement. On a besoin de souffrir, de prendre un grand mur dans la gueule pour se dire, bon ben là, apparemment, c'est une limite infranchissable. Apparemment, je ne peux pas traverser le mur, non, ça ne passe pas. J'ai les bras cassés, la tête pétée. Voilà, j'ai peut-être compris la leçon, tu vois. Et donc c'est vraiment cette idée-là. Et il y en a qui vont, voilà, qui vont chercher à, voilà, et à dépasser ce mur. Et c'est ok. Et chacun met son mur, voilà, un peu plus loin, un peu plus près. Donc voilà. Pour moi, ça me paraissait important de rappeler que il y a pas de réponse à cette question, hormis celle de votre cœur, en fait.
C'est ça. En fait, moi, j'aurais juste envie de rajouter, écoutez-vous, en fait. C'était ma première idée quand j'ai lu cette question, c'était écoutez-vous. Bon, je suis pas thérapeute, mais
tu apprendras toujours. Tu vois, c'est-à-dire que même les fois où tu dépasses tes limites, moi, il y a plein de fois dans ma vie où, par amour, j'ai littéralement dépassé mes limites. Et ben, j'ai appris. J'ai appris quelles étaient mes limites. J'ai appris de me dire, ok, ben là, en fait, là, t'as dépassé une limite. Donc, ça veut dire que là, il y a une limite qui existe. Tu vois? Donc, en tous les cas, tu apprends. En fait,
c'est ça. Ouais. Première question. La seconde, c'est quoi la frontière entre blessure à nettoyer qui s'exprime et pervers narcissique?
Oui. Alors j'ai choisi cette question, bon, bien que je suis pas tout à fait certaine de comprendre la question en soi, de la manière dont elle a tourné, mais ça m'a donné envie de faire une proposition de réponse parce que c'est de nouveau quelque chose qui revient assez bien. Comment je sais que je connecte à des blessures archaïques de l'enfance et que du coup la souffrance que j'éprouve est liée à un processus naturel de l'ordre de la réparation de la relation, ou que je suis réellement face à une situation relationnelle, face à quelqu'un qui a pour moi une pathologie avérée, parce que pour moi le pervers narcissique, contrairement aux idées reçues plus ou moins qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, parce que ça y est, pervers narcissique, c'est employé à tout va, c'est quand même un terme qui est très galvaudé. Dès qu'une personne nous rentre un peu dedans ou emploie des stratégies un petit peu de manipulation sociale, ce qu'on a tous tendance à utiliser, on manipule tous un peu, hein, faut pas se leurrer. On est tous un peu dans la séduction, faut pas se leurrer non plus. Dès qu'on est face à ce profil-là, ah ben c'est un pervers narcissique ou c'est une pervers narcissique. On va beaucoup trop vite en besogne. Un pervers narcissique ou une pervers narcissique, enfin une personnalité narcissique, pour moi, ça rentre dans la catégorie des sociopathes. Et ce sont des gens qui ont un fonctionnement très clair, qu'on peut reconnaître. Ce sont des gens qui agissent par paradoxalité, par induction, par culpabilité, par pression. Ce sont des gens qui fonctionnent au travers de l'emprise. C'est des gens qui sont réellement dans un délire victimaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, hein, dans ma représentation du monde, le narcisse n'a pas conscience de ses troubles. Donc déjà, ça, c'est très important. Il ne pourra jamais se remettre en question, mais jamais. À l'heure actuelle, enfin jamais, je ne veux pas dire jamais, mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans le milieu de la psychiatrie, on n'a toujours pas trouvé de méthode pour parvenir vraiment à réparer ces gens-là et à les aider, parce que ce sont des gens qui ont des failles narcissiques mais profondes, hein, qui ont littéralement été déstructurés dans l'enfance sur leur construction intrapsychique, sur la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Et donc, ce sont des gens qui sont réellement pris dans un délire victimaire, qui, une fois qu'ils ont leur proie, leur victime, qui sont généralement quand même des profils assez hypersensibles, hyper émotifs, vont en fait tout simplement considérer que c'est presque eux la victime en fait. C'est eux, c'est le narcisse qui est la victime de cette personne qui lui fait du mal, qui est dangereux ou dangereuse, qui est instable, qu'il faut qu'il parentalise, qu'il faut qu'il inductionne. Voilà, donc c'est quand même des profils qui sont très spécifiques et pour moi ne s'apparentent pas. Enfin, il y en a pas autant que ce qu'on prétend, mais ils sont bien là, voilà, ils sont bien là malheureusement, et il y en a aussi plus par moment que ce qu'on peut croire aussi. Donc voilà, et donc il y a une différence majeure entre ce processus-là où là du coup on est face à quelqu'un qui va nous déstructurer, pour moi réellement, nous déstructurer. Et honnêtement, je sais de quoi je parle, et personnellement et professionnellement. Et la seule chose que je peux vous inviter à faire, honnêtement, je prends encore des murs par rapport à ça, parce que je pense que mon élan du cœur, des fois, se dit que l'amour peut tout traverser, mais je pense que c'est se protéger absolument et couper le contact au maximum, limiter le contact au maximum, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents. Et même chez des profils très intelligents et très aiguillés et très conscients, d'un point de vue même énergétique, hein, ils arrivent à désarçonner, ils arrivent à inductionner, ils arrivent à rentrer dans la tête, ils arrivent à déposer des affects, des pensées qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est vraiment de la perversion morale et de la manipulation et de l'induction et de la paradoxalité, parce qu'il y a vraiment cet enjeu aussi de je te dis blanc et puis demain je te dis noir et puis je soutiens aussi bien le blanc que le noir et je te montre que c'est toi qui as tort, que c'est toi le problème, que c'est toi qui es responsable. Donc vraiment, fuyez, protégez-vous, entourez-vous de personnes qualifiées, compétentes, qui savent de quoi vous parlez. La justice peut aider, mais malheureusement la justice n'est pas formée à ce genre de profil. Il y a de plus en plus d'avocats qui sont formés à ces profils-là par des psychiatres, et heureusement, mais voilà, ça demande pour moi vraiment des formations importantes. Jean-Claude Masse, qui est pour moi voilà un homme que j'admire beaucoup, qui m'a formée sur les dérives de l'emprise, justement par rapport à ces personnalités-là, voilà, est un homme incroyable qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et qui est un vrai spécialiste de l'emprise, puisque voilà, c'est vraiment comme ça que les narcisses fonctionnent, et autant les hommes que les femmes. Et concernant les blessures de l'enfance archaïque, ben pour moi on en a tous, et elles vont toutes s'activer dans le couple. Et donc c'est vraiment très important de savoir que c'est pas parce que t'as mal à un moment donné dans ton couple que ça veut dire que t'es pas à ta place. Et une fois de plus, ce n'est pas un encouragement à alimenter la croyance de l'amour, ça fait mal. Ça, c'est un conditionnement que j'ai eu pendant longtemps. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que bah oui, par moment, ça peut être challengeant, ça peut être difficile, parce qu'on vient réouvrir les failles et les blessures archaïques de l'enfance dans le but de les sublimer. Donc voilà, de nouveau, il y a vraiment une lecture à faire entre ma souffrance que je ressens et qui fait partie, entre guillemets, intégrante du chemin de réparation, et là, une souffrance que je ressens parce que je suis face à une personnalité qui met tout en place pour me détruire, en fait.
Je pense que, des fois, quand tu y réfléchis, moi, je trouve que des fois, il faut revoir aussi l'historique de la relation, voir comment ça s'est passé. Et souvent, à ce moment-là, tu vois si c'est vraiment des blessures ou si c'est quelqu'un de narcissique, pardon. Et moi, je vais parler un peu de mon histoire personnelle. Avec mon ex-mari, on s'est posé la question s'il était pervers narcissique. Et en fait, en refaisant le fil de notre relation, il n'était pas du tout pervers narcissique. C'est juste que la société nous avait inculqué qu'il avait, qui véhiculait des choses. En vrai, il avait juste ses blessures, en fait, ses vraies blessures de l'enfance. Et en rediscutant de ça, il me dit, en fait, j'ai trois blessures. Et donc, on en a discuté et c'était ça, en fait. Et c'est vrai que la frontière est vraiment... c'est vrai que...
Je vais te dire, Isabelle, quelqu'un qui se demande s'il est pervers narcissique, alors il est à 10 000... Il y a 10 000 de l'aide, d'accord ? Donc, on s'est demandé s'il n'était pas pervers narcissique. Ok, tu sais que non.
Mais c'est pas ça. En fait, c'est que j'avais une thérapeute, alors je l'avoue, c'était ma thérapeute qui m'avait dit, vous n'avez pas pensé qu'il était pervers narcissique.
Mais voilà, mais ça, c'est terrible.
Et c'était ça, en fait, qui nous a mis dans le doute à cette époque-là, parce que je me suis dit, si, possiblement, et du coup, je lui en ai parlé, et lui, il me dit, mais je me suis posé la question, et c'est là que tu dis, il y a un souci. Bon, j'ai changé de thérapeute, j'ai fait que 2-3 séances, je crois, avec elle. Et en fait, je me suis dit, elle avait fait revivre son histoire personnelle, en fait, je me suis rendu compte, parce qu'elle m'avait raconté, du coup, qu'elle avait rencontré un pervers narcissique. Et voilà. Et c'est qu'en fait, Bah ouais, si tu te poses la question, des fois, enfin, si lui s'est posé la question, à un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, s'il se pose la question, c'est qu'il l'est pas. Et puis, des fois, t'as les histoires de tes amis aussi qui reviennent.
Bien sûr.
Et voilà. Et donc, oui, c'est la société qui nous... Enfin, en ce moment, c'est vrai qu'il y a eu une grosse période, là, où on parlait des pervers narcissiques.
Avec les hypersensibles, hein, énormément. Avec la montée en puissance des hypersensibles, ça a libéré aussi la parole sur...
Donc voilà. Bon, on s'est séparés, mais à un moment, enfin voilà, quand tu travailles beaucoup sur ton couple en te disant est-ce que tu veux vraiment continuer, on s'est posé cette question. Donc voilà. Passons à la troisième question. Se remet-on de la trahison / confiance un jour, et est-ce que mentir / tromper un jour, c'est mentir tromper toujours?
Alors heureusement. Heureusement qu'on peut se remettre du mensonge et de la trahison. Sinon, ce serait sacrément la merde dans les couples. et évidemment que pour moi, mentir un jour, tromper un jour, ce n'est pas tromper toujours. Enfin, je ne crois pas du tout en cette idée-là. C'est comme l'idée que, je ne sais plus, j'avais entendu une phrase comme ça, un dicton comme ça, de se remettre avec son ex, c'est un peu récurer les toilettes, tu vois, enfin... ou sortir les ordures ménagères, quoi, un truc comme ça. Je suis tellement pas d'accord, parce qu'une fois de plus, c'est des visions, à mon sens, qui sont tellement arrêtées et qui pètent complètement la possibilité d'évoluer et de grandir, tu vois, et de faire différemment. Et j'en parle d'un point de vue purement personnel, pour le coup, par rapport à mon histoire avec mon allié, où on a quand même vécu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons. Et bien sûr qu'aujourd'hui, même à 28 balais tous les deux, depuis toutes ces années qu'on se connaît et après tout ce qu'on a accumulé, bien sûr que ces trahisons et ces moments de vie, des fois, hop, elles réapparaissent et on a besoin d'en reparler. Ou alors, il y a quelque chose qui se réactive, il y a une blessure qui se réactive, on se dit, putain, mais tu vois, ça me fait penser à tel moment et c'est pas facile. Et voilà, parce que c'est un chemin. Et je pense vraiment qu'il y a, moi, il y a certaines trahisons que j'ai littéralement pardonnées, que lui aussi, de mon côté, il m'a littéralement pardonné, dont on ne reparle même plus, ou quand on en reparle, c'est complètement OK, parce qu'on sent que c'est vraiment dépassé, c'est OK, c'est accepté. Il y en a d'autres pour lesquelles on est encore en travail, encore en chemin, mais même dans les couples que j'accompagne, c'est magnifique, c'est merveilleux de voir à quel point ces couples parviennent à un moment donné à déposer de la conscience, à comprendre le processus de co-responsabilité aussi qui se met en œuvre, parce que pour moi, quelqu'un qui trahit, qu'est-ce que ça veut dire, trahir quelqu'un, en fait? Tu vois, ça veut dire quoi, en fait? On est le seul à porter la responsabilité de celui qui agit, mais du coup, on sort complètement l'idée de l'idée que du couple, c'est deux alliés co-responsables, en fait, tu vois, et qui co-créent quelque chose dans l'espace. Donc, voilà, c'est comme ces notions de relations extra-conjugales. Enfin, pour moi, c'est un symptôme. Donc, évidemment, il y en a un qui agit. Mais très souvent, quand on travaille ça avec les couples, on se rend compte qu'il y avait tout un contexte, en fait, dans lequel l'autre allié a très souvent aussi une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère et qu'on n'a pas le droit de se sentir très mal et d'avoir un deuil, de tout ça. Bien sûr, mais attends, ça se construit souvent à deux quand même, hein. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc je pense évidemment que... on peut complètement traverser ces épreuves-là, et bien sûr qu'on peut pardonner, et bien sûr qu'on peut dépasser le mensonge et la trahison, heureusement.
Est-ce que tu penses que, enfin, c'est une question comme ça qui venait, est-ce que tu penses que dans un couple, on doit tout se dire?
C'est une excellente question que tu poses, et de nouveau, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des couples qui ont besoin d'absolument tout se dire. Je pense qu'il y a des couples qui ont besoin de maintenir un espace intime. Moi, personnellement, dans ma relation avec Paul, je me rends compte que on est quand même très, très, très transparent. On se parle énormément, on se dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a quand même des choses que moi, je ne vais pas lui dire. Et je sais qu'il y a aussi des choses qu'il ne va pas me dire. Pas pour se les cacher. Alors, probablement des fois pour se préserver mutuellement. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de toujours se demander, attends, est-ce que ce que je m'apprête à dire va réellement servir mon lien, va réellement servir ma relation? Voilà. Donc, c'est déjà une première question à se poser. Et aussi, des fois, mais parce que tout simplement, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime, en fait. Il y a des choses qui sont de l'ordre de... Voilà, il y a des choses que j'ai envie de partager qu'avec moi-même. Et que j'ai pas forcément envie de lui parler, soit parce que j'ai pas envie de lui en parler, soit parce que j'ai la flemme, soit parce que je peux avoir honte, soit parce que j'ai peur à certains moments, c'est vrai, de sa réaction. Mais des choses que je lui dis pas aujourd'hui sont peut-être des choses que je lui dirai demain. Et des choses dont je lui parle aujourd'hui sont peut-être des choses dont je lui parlerai plus demain. En fait, voilà, il y a pas de règle, et je pense de nouveau que, ça dépend de chacun. Voilà. Ça dépend de chacun des deux alliés.
D'accord. On va passer à la dernière question que tu as choisie. Comment reconstruire son couple sur une autre sexualité ?
Ah, j'aime beaucoup cette question parce que pour moi, elle est vraiment dans l'air du temps. Et de nouveau, c'est quelque chose que je défends énormément sur les réseaux sociaux et que je prône dans Relations conscientes, la formation que j'ai créée, et que je prône dans la thérapie aussi du couple. C'est que pour moi, il y a vraiment tout à refaire là, sur la sexualité. Il y a un déconditionnement profond à avoir. Il y a une révolution sexuelle à mettre en place. Parce que malheureusement, on n'est pas éduqué à relationner et de fait, on n'est pas éduqué sexuellement. On ne nous apprend pas, on est livré à nous-mêmes. La seule plateforme d'éducation sexuelle, c'est la pornographie. Et donc, on imagine bien les ravages que ça peut causer chez les femmes, chez les hommes, chez les couples hétérosexuels, homosexuels, tout ce que tu veux. C'est vraiment catastrophique. Sur le culte du corps, l'image de la femme, le rapport de force, certaines pratiques que je ne vais absolument pas condamner en fait. Chacun est libre de faire ce que bon lui semble, mais quand il n'y a pas d'éducation derrière, en fait, tu donnes une arme en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est-à-dire que tu peux donner une pratique géniale en fait, qui peut être très intéressante à explorer dans le couple, mais si derrière tu l'expliques pas, ça peut devenir une arme pour assouvir son pouvoir ou pour faire beaucoup de dégâts ou pour réouvrir des failles sans accompagnement derrière. Refaire des grosses réviviscences traumatiques. Donc pour moi, c'est gravissime hein, ce qui se passe avec la pornographie aujourd'hui et surtout le fait qu'elle soit si accessible. Aux jeunes, et aussi par rapport de nouveau à cette culture genrée du corps féminin ou du corps de l'homme. Et donc pour moi, il y a vraiment un réapprentissage autour de la sexualité qui, pour bon nombre d'entre nous, s'apparente à la pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, s'il n'y a pas de coït à la finale, alors ce n'est pas une sexualité, ce n'est pas un rapport sexuel. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, une fois de plus, la sexualité, elle démarre, ne serait-ce que elle peut démarrer dans le regard, elle peut démarrer dans le toucher, dans la caresse. On est déjà dans une sexualité, on est déjà dans une exploration érotique avec son allié. Et donc pour moi, il y a vraiment une invitation à se déconditionner, à concevoir qu'on peut vivre et explorer notre sexualité avec notre allié ou avec des partenaires sexuels, déjà dans le consentement. Alors ça me paraît fondamental, donc en revérifiant toujours si c'est ok, en parlant, en communiquant, en sortant un petit peu de ce qu'on voit dans les films, les romans, de ah putain c'est la passion, c'est le truc, c'est le machin, oh on jouit, c'est magnifique. Bah non, on jouit pas toujours. La femme doit sortir, à mon sens, de cette injonction de devoir faire plaisir, de devoir jouir, de devoir servir absolument l'homme, le mener à l'orgasme. L'homme doit sortir de sa pression de devoir bander absolument, de devoir pénétrer absolument. Voilà, ça c'est, ça pressurise de ouf. Et le couple ou les partenaires sexuels, pour moi, à mon sens, doivent réellement réapprendre en fait à s'explorer, à se visiter dans la conscience, dans le respect, dans le questionnement, dans la communication. Et ça demande d'être éduqué sexuellement. Et c'est pas faute d'avoir fait des propositions dans des collèges et des lycées à plusieurs reprises me concernant. L'éducation nationale n'a pas l'air très concernée par ces démarches. Donc écoute, la suite reste à écrire.
Moi, je dis souvent, je l'ai encore dit hier, moi, si j'étais ministre de la Santé, en tant qu'infirmière, il y aurait tellement de choses à créer. Juste pour rappeler que dans les besoins qu'on apprend en tant qu'infirmière, les 14 besoins de Virginia Anderson, les premiers besoins primaires, c'est boire, manger, uriner, etc. Mais il y a aussi la sexualité, en fait. Et je trouve que l'amour de soi et l'amour des autres et faire l'amour, c'est vital. Alors après, ceux qui sont asexués, pour moi, la sexualité, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même et du coup se découvrir, mais pas se découvrir par du porno. Je suis totalement d'accord. Je trouve ça tellement fou. La facilité d'accès justement à ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y a des gens qui diffusent des choses en live. Ça me fait halluciner. Et de me dire que des gens à partir de 10-12 ans voient ça, parce que je crois que c'est ça le minimum d'âge pour avoir accès à TikTok. Et je trouve ça halluciné parce que donc moi je suis rentrée dans une association bénévole où il y a des jeunes. C'est il y a quelques semaines, donc j'ai pas eu le temps vraiment de rentrer dans le sujet de la sexualité. Et je me dis toujours qu'il y a tellement de choses à faire sur ça, sur la sexualité, sur leur vision à eux. Parce que nous, on nous a apporté, moi j'ai 34 ans, et je me souviens le seul film que je me souviens, c'était les films de Canal+, ou les films d'M6, où les rapports, c'était une femme soumise à un homme, avec une force dominante, etc. Et la sexualité, pour moi, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que de réapprendre après, quand tu as eu ces schémas-là, c'est très compliqué de les déconstruire dans ton couple. Et surtout de te dire, rentrons dans les termes, de te dire, moi, je veux ma sexualité à moi, je veux me masturber moi, en fait, toute seule. Et en fait, on revient dans tout ce qui est accessoires, sextoys et tout. Mais il y a quelques années, moi, j'aurais dit que j'aimais me prendre du plaisir seule, c'était compliqué, parce que les gens n'auraient jamais... c'est d'apprendre à s'aimer d'abord avant d'aimer les autres et c'est un ensemble de choses et je reviendrai j'ai des sexologues que je dois interviewer mais c'est vrai que c'est comment reconstruire son couple dans une autre sexualité sur une autre sexualité mais enfin voilà c'est une vraie éducation en fait et c'est vrai que moi ça m'interloque que le ministère de l'éducation ne s'interroge pas sur leur façon de faire aussi parce que quand tu te souviens de tes cours à l'école d'éducation sexuelle, franchement, il y en a certains, c'était hallucinant. C'était, on est tous en groupe, filles, garçons, tout le monde rigole parce que tout le monde est gêné. À un moment, c'est un sujet qui pour moi est pas sérieux, mais qui est important, en fait, dans l'acceptation, dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans l'amour que tu peux t'apporter. Et en faire ça, et il y a un rôle parental aussi dans ça. Moi, mon fils, il a 4 ans. Et lui laisser ce temps, par exemple, dans le bain pour lui dire, apprends à connaître ton corps. Et puis des livres aussi, il existe des livres maintenant pour ça, Corps, sexualité et amour, il est génial ce livre, où je lui ai montré des images et il m'a fait trop rire quand il a vu le clitoris et qu'il m'a dit, c'est un petit cœur. C'est pas que c'est un peu tôt, mais je me dis qu'il y a des choses qu'il faut qu'il apprenne, le consentement aussi. Quand il me dit, j'ai voulu lui faire un bisou et est-ce que tu l'as forcé? Non. Tu lui expliques le consentement. Et tout ça, c'est des apports à nous en tant que parents. C'est aussi des remises en question. C'est dur aussi de se remettre en question parce que nous, on n'a pas eu du tout ces schémas. Moi, j'ai pas eu du tout ce schéma-là de ma mère. Les règles, je les ai découvertes au moment où j'ai eu le premier saignement, quoi. J'ai pas, lui expliquer, par exemple, ce qu'est les règles à mon fils, je me dis que c'est aussi un apport. Et c'est ça, en fait. Tout ce qui est sexualité, je trouve que ça devrait être ça à l'école. Par exemple, remettre les cours de couture à l'école pour que les nanas puissent se faire des culottes de règles et les mecs des slips chauffants, je sais pas, ce serait mille fois plus logique je pourrais en parler des heures parce que, vraiment, l'éducation sexuelle, je trouve ça tellement important et c'est tellement minime que, à nous, en tant que parents, malheureusement, d'en faire en partie et puis de revoir aussi ce qui a été inculqué à l'école parce que des fois, c'est pas forcément très, très bien inculqué. Et je reviens aussi sur une autre chose, c'est que quand les patients sont hospitalisés, tu vois, en psychiatrie, plusieurs fois, les patients ont été virés parce qu'ils ont eu des rapports entre eux, qu'ils ont découvert ça m'a fait halluciner. Je disais à un soignant, je dis mais pourquoi vous mettez pas, des préservatifs. Il me dit ouais, mais ça deviendrait un bésodrome. Mais peut-être pas en fait. Ça deviendrait juste quelque chose de naturel. Des gens sont hospitalisés pendant 2-3 mois et on leur dit prenez soin de vous, mais pas de cette façon-là en fait. Vous pouvez prendre soin de vous, mais pas de cette façon-là.
C'est les incohérences du système de toute façon. Tu vois.
De quoi ?
C'est les incohérences du système en fait de toute façon. C'est prenez soin de vous, mais surtout pas trop. Parce qu'il faut rester bien malléable. donc je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Et tu parlais des 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson qui me paraissent très, très loin maintenant. je remets en question un peu, pas ces besoins-là fondamentalement, ni la pyramide de Maslow, mais pour moi, avant même de boire, de manger, d'uriner, de tout ce que tu veux, il y a aimer et il y a être aimé. Voilà. Oui. Ça, pour moi, c'est le besoin fondamental. Voilà.
Fondamental. Oui, tu as totalement raison. Mais c'est juste que je revenais là-dessus, oui, pourquoi. Mais voilà, du coup, il y aurait plein de choses à dire sur la sexualité. J'ai trouvé que tu as bien fait de choisir cette question parce que je trouve que c'est hyper important. Et moi, j'avais une patiente, par exemple, juste pour une petite anecdote, j'avais une patiente, elle avait fait une crise d'angoisse et elle m'appelle. Et j'avais repéré qu'elle avait un sextoy dans sa chambre. Et du coup, je lui dis qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ressources vous avez utilisées? Donc elle me dit j'ai essayé de marcher, j'ai essayé de respirer, cohérence cardiaque, etc. Et je lui dis j'ai vu que vous aviez un sextoy. Est-ce que vous l'avez tenté? Elle me dit mais je savais pas que vous l'aviez vu. Je suis désolée. Je lui dis mais en fait il y a pas à être désolée. Et du coup je lui dis mais est-ce que vous l'avez fait du coup? Elle m'a dit oui. Et elle me dit ça a pas fonctionné. Et donc on a rigolé. Je dis, bon, au moins vous aurez tout tenté, entre guillemets, je vais vous aider, enfin, je vais essayer de vous aider à ma manière. Mais voilà, c'est juste, enfin voilà, il y a des choses où pour moi, ce serait logique de réapprendre aux gens. Et moi, souvent en psychiatrie, je parlais aussi parce que je trouve que on est vachement dans le côté soignant, enfin voilà, la barrière du côté soignant et côté patient. Et je parlais aussi un peu de mon histoire personnelle et je leur disais, est-ce que par exemple, vous avez essayé de vous regarder juste dans le miroir, vous, enfin, juste dans les yeux? Et regarder votre corps aussi. Et je trouve que c'est important aussi pour la sexualité, pour apprendre à s'aimer, de se regarder et de regarder l'autre, de se regarder, mais vraiment dans le blanc des yeux, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà. J'aurais trois dernières questions.
Ouais.
Un conseil, après, t'en as tellement donné qu'un conseil au couple, je pense que celle-là, on peut la. Enfin, non, en vrai, on peut la squeezer, hein, je me la barre. Juste, si tu rencontrais le président de la République aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à lui dire sur la relation de couple? Ça, c'est pareil, en fait. Tu as parlé d'amour et de besoin, mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur ça, sur l'apport que toi, tu pourrais avoir en tant que thérapeute sur le couple?
C'est une question très intéressante, mais pour moi, en fait, c'est vraiment une question sociétale, en fait, finalement. Pour moi, le couple, je le vois comme une base inspirationnelle pour notre société. Comme je l'ai dit, c'est un lieu, à mon sens, de partage, d'équilibre, de déséquilibre, de réparation, de nettoyage, d'humilité, de co-création, d'introspection, de remise en question, d'insécurité revisitée, pour y déposer de l'amour, en fait. C'est vraiment un lieu de manifestation, de connexion et d'exploration. Et du coup, je vois vraiment les choses comme du couple né des enfants. Ça forme une famille, cette famille qui grandit et qui forme des citoyens, ça forme plein de familles avec une société en fait à la clé. Et ces enfants qui grandissent deviennent un jour des adultes qui eux-mêmes reforment un couple. Donc si j'apprends à servir la relation au sein de mon couple, dans cet espace où les émotions et les blessures de l'enfance sont reines, faut juste imaginer comment je pourrais merveilleusement transférer tous ces enseignements dans ma manière d'être avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, avec mes collègues de boulot, avec mon voisin du coin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois que l'une des choses que je demanderais au président de la République, ce serait de faire de l'éducation relationnelle et sexuelle une priorité dans les écoles.
Très beau, très beau. Mais je suis totalement d'accord. Et donc, ma dernière question. Qui est, je trouve, centrale et assez importante. Aujourd'hui, Maureen, est-ce que tu t'aimes?
C'est une super question. Aujourd'hui, est-ce que je m'aime? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Je dirais que, contrairement à une époque où je me suis énormément détestée, aujourd'hui, j'arrive à me parler, j'arrive à me pardonner quand j'ai la sensation de pas faire ce que j'aurais voulu faire de la bonne manière, j'arrive à lâcher ce perfectionnisme chronique que j'avais quand même jusqu'à présent, j'arrive à me parler avec douceur, j'arrive à être indulgente, j'arrive à me respecter, j'arrive de plus en plus à être une mère pour moi-même. J'y arrive pas toujours. Il y a évidemment des fois où je me casse la gueule. Il y a des fois où je me parle pas gentiment. Il y a des fois où je rumine. Il y a des fois où je regarde ce que j'aurais pu mieux faire plutôt que de me dire c'est déjà bien ce que t'as fait. Voilà, il y a des fois où je suis un peu encore dure avec moi-même, c'est vrai. Mais j'ai quand même la sensation que de là où je viens, j'ai fait un travail énorme en fait de réappropriation de ma personne. Où j'ai vraiment appris à déposer de l'amour en la petite fille que j'avais été, en l'adolescente que j'avais été, en l'adulte que je suis, en la mère que je suis. Et j'apprends encore tous les jours. Hein, tu vois, j'ai encore vécu un événement là, il y a quelques jours où j'aurais pu vraiment cristalliser sur le truc et ruminer, me dire « putain, mais quelle conne, mais quelle conne, mais quelle conne ». Et c'est ce que j'ai commencé par faire parce que j'avais du mal à comprendre le sens de cette expérience relationnelle que j'avais vécue alors que j'étais préparée à ça. Et en fait, j'ai réalisé après que la vie, de nouveau, m'envoyait l'opportunité de me choisir moi. Et que là, je m'étais pas choisie à ce moment-là. Et que c'est pour ça que j'avais pris un mur dans la gueule. Et du coup, c'était génial. Parce que j'étais capable de prendre conscience que c'était ça. C'était moi qui devais passer avant tout. Et quand je dis moi, je l'oppose pas du tout à mon couple. Hein. Ça, c'est vraiment important de le rementionner puisque je défends vraiment cette idée de servir la relation. Mais voilà, en tout cas, je pense vraiment que je me sens chaque jour un peu plus de mieux en mieux avec moi-même et que j'apprécie énormément la femme que je suis devenue et que j'ai par contre énormément de respect et d'admiration pour la petite fille. Voilà, de là où elle vient et pour de ce qu'elle en a fait.
Bah super, c'est vrai que de repenser à son passé, c'est toujours salvateur, je trouve, de se dire j'ai traversé ça en fait. Donc merci Maureen, merci pour tout ça.
Merci à toi.
J'ai adoré cette interview et en fait je pense que ça a remis, je pense qu'en le réécoutant pour le montage, ça a remis en question beaucoup de choses pour moi personnellement et j'ai eu plein de petites pensées, donc merci pour tout ça, merci pour tout cet apport et du coup je vous dis à très bientôt. Amour, Isa.
Amour.
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 Amour.